Alors, on va commencer par demander au Seigneur qu'il remplisse nos cœurs, qu'il nous fasse comprendre en profondeur ce qu'il veut nous dire, pas ce que je vais dire, pas ce que je vais dire. Ça compte dans la mesure où c'est le Seigneur qui parle à travers moi, et j'espère que c'est le cas. Seigneur, nous voilà maintenant en face de, une fois de plus, si je puis dire, avec la liturgie, nous étions déjà en face de ta parole. Et nous te bénissons pour ce que tu nous as déjà dit. Et maintenant, c'est le temps d'explication de la parole, Seigneur, et nous voulons là aussi que tu nous donnes l'intelligence, que ton Saint-Esprit nous donne de bien comprendre ce qui s'adresse à nous, parce que tu veux parler intimement au cœur de chacun maintenant. Et nous te bénissons, Seigneur. Il est dit que la parole est vivante et efficace, et nous savons bien que c'est vrai, Seigneur. Et au fil des temps, lorsque nous la lisons, nous voyons bien que, comme il est dit quelque part aussi dans l'Écriture, c'est une lumière à nos pieds. C'est quelque chose qui nous fait vivre, Seigneur. Et nous te bénissons pour cette liberté que nous avons de pouvoir la lire aussi souvent que nous le voulons. Alors maintenant, Seigneur, oui, que ton Saint-Esprit soit avec nous. Bénis-nous, Seigneur, dans ce temps de méditation. Amen. Nous avons tous lu les Actes des Apôtres, les Épîtres. On connaît tous à peu près le personnage de l'apôtre Paul. Et lorsqu'on se le représente, on pense que c'est un chrétien hors pair, totalement consacré à Dieu. Il a parcouru tout le bassin méditerranéen sur mer et sur terre. Oh, non pas pour aller au Club Med, mais pour annoncer l'Évangile. Il a formé des disciples du Christ dans tous les pays dans lesquels il séjournait. Il a créé des églises et il les a affermies. Il a été persécuté par des juifs et des païens à cause de sa foi. Il a été battu de verges, lapidé. Il a affronté la faim, la soif, les naufrages pendant ses voyages missionnaires. À lui seul, il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il a fait des guérisons à l'appel. Il a ressuscité un mort. Et s'est même permis de reprendre Pierre, le grand apôtre dont l'Église catholique a fait le premier pape, lui reprochant devant une assemblée de croyants sa conduite ambiguë vis-à-vis des chrétiens et des païens. Oui, ceux qui doutent, là, c'est Galates 2, 11, 14. Tout ce que je viens d'évoquer de la vie de l'apôtre est parfaitement vrai. On se dit que si le chrétien parfait existe, eh bien, Paul en est le digne représentant. Et on conclut qu'on ne lui arrive pas à la cheville. On se sent si petit par rapport à ce géant de la foi. On n'est pas loin de penser qu'il ne connaissait pas les luttes intérieures qui agitent si souvent notre esprit, des luttes qui nous font agir parfois de façon tellement étrange qu'on ne se reconnaît pas soi-même, que les tentations lui étaient épargnées, les pensées mauvaises et méchantes absentes de son esprit et les jugements sur les autres inexistants. En quelque sorte, qu'il était parfaitement en règle avec la loi de Dieu. En règle. Eh bien, si vous avez jamais pensé cela, le texte que je vais lire va vous décevoir. Voici ce que cet apôtre hors du commun a écrit en parlant de lui. On va lire dans Romains, au chapitre 7, les versets 14, à partir du verset 14. Voilà ce que Paul écrit. Romains 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voici ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout géant de la foi qu'il était, et totalement consacré à Dieu, Paul n'était pas en règle avec la loi de Dieu grâce à ses œuvres ou à sa consécration à Christ. En cela, Paul ressemble trait pour trait à tous les hommes, chrétiens ou pas. Nous l'avons entendu dire il y a un instant, ce que je veux, je ne pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Et plus loin, il ajoute, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. En cela, Paul nous ressemble, ou bien nous le ressemblons, car aucun homme n'a jamais été en règle avec la loi de Dieu et ne le sera jamais. En effet, d'une façon ou d'une autre, dans un domaine de notre vie ou dans un autre, nous péchons contre Dieu. Car si nous sommes droits dans un domaine et pécheurs dans un autre, c'est toute la loi que nous bafouons. L'apôtre Jacques le dit clairement, je cite, « Car quiconque observe la loi mais pèche contre un seul commandement devient coupable envers tous. » Aucun homme n'est donc jamais en règle avec la loi. En effet, les bonnes œuvres que nous accomplissons ne compenseront jamais les œuvres mauvaises que nous faisons ou les œuvres bonnes que nous ne faisons pas. Je voudrais souligner cette idée de compensation. C'est un poison spirituel, inhérent à notre vieille nature, notre ancienne nature, dont nous conservons encore des lambeaux malgré notre nouvelle naissance en Christ. C'est un poison dont nous avons tant de mal à nous défaire et que nous avons tendance à entretenir inconsciemment. Dans notre recherche effrénée de nous donner bonne conscience devant les hommes et devant Dieu, nous plaçons sur le plateau de la balance des mérites le mal que nous ne faisons pas, tac, le mal que je ne fais pas, et il nous arrive d'en être fiers. C'est une façon sournoise de se comparer aux autres pour en tirer orgueil, de minimiser la grosseur de la poutre que nous avons dans notre œil pour grossir la paille que nous voyons dans l'œil des autres, Matthieu 7, 3. Et nous oublions aussi de placer dans l'autre plateau de la balance le bien que nous ne faisons pas. Le bien que nous ne faisons pas. On a souvent tendance à l'oublier, ce bien-là. Dans le récit parabole du jugement des nations, Jésus nous met en garde contre cet oubli si répandu qui nous donne bonne conscience. À ceux qui ont une bonne conscience de n'avoir pas pratiqué le mal, il leur dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé par le diable pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, et moi je les vois avec des yeux gros comme des billes, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Prenons conscience que le raisonnement qui consiste à se comparer aux autres pour se sentir en règle avec la loi de Dieu, c'est une forme d'arrangement ou de marchandage avec Dieu. C'est comme si nous lui disions explicitement « Oh Seigneur, bénis-moi pour les bonnes œuvres que je fais, mais ferme les yeux sur le mal que je fais ou sur le bien que je ne fais pas. » Demandons pardon pour cette tentative d'arrangement avec notre conscience. Arrangement qui s'apparente singulièrement au salut par les œuvres. Et n'oublions jamais que le seul acte qui fait de nous des hommes et des femmes pardonnés, c'est Christ qui l'a accompli à la croix. Je cite Romains 8, 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'homme vit sous le régime de la grâce, cette grâce qui a coûté la vie au Seigneur. L'homme a besoin de cette grâce chaque seconde de sa vie, car il n'est jamais en règle avec la loi. Nous devons donc veiller à ne jamais être satisfaits de ce que nous considérons parfois comme une sorte d'état de sainteté. Lorsque nous avons été guéris du mensonge, ou bien de la colère, du vol, de l'infidélité, du jugement, du non-pardon, et de plein d'autres choses peut-être. Oh Seigneur, tu vois comme je suis ? Afin de ne pas tomber dans le découragement ou le désespoir, lorsqu'il nous arrive de commettre un péché, le même ou bien un autre. Pour éviter cette déprime que l'ennemi de nos âmes voudrait entretenir en nous pour nous détourner de Dieu. Mais regarde-toi, mon pauvre, tu vois bien que tu retombes toujours dans les mêmes travers. Laisse tomber ce Dieu qui ne t'aide pas. Pour éviter cette déprime, il est primordial d'avoir conscience que nous ne serons jamais en règle avec la loi de Dieu. En effet, ce qui nous justifie, ce n'est pas notre conduite dans tel ou tel domaine de notre vie ou nos bonnes œuvres, aussi grandes soient-elles. Ce qui nous justifie, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Je lis Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le sacrifice de Jésus qui fait de nous des hommes et des femmes justifiés, des êtres pardonnés qui ne sont plus condamnés par la loi. Je cite Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune condamnation. Frères et sœurs, qui allons-nous écouter lorsque nous sommes confrontés à cette situation? Celui que l'évangile de Jean présente comme, je cite, « menteur et père du mensonge » Jean 8, 44. Ou bien celui qui a subi à notre place les conséquences de notre péché, Jésus-Christ. Attention, savoir que l'on est sous le régime de la grâce et du pardon n'est pas un encouragement à continuer à pécher. Savoir cela, c'est par contre ne plus désespérer lorsque nous prenons conscience que nous sommes incapables d'observer toute la loi de Dieu. Je cite Romains 7, 18. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Se croire en règle vis-à-vis de Dieu et de la loi, c'est penser inconsciemment qu'on mérite son salut. Alors pour éradiquer et extirper de nos pensées et de nos comportements cette attitude religieuse contre laquelle Jésus nous met en garde, il y a deux choses essentielles à faire. Peut-être plusieurs, mais je vais en citer deux. La première, c'est de cesser de se regarder le nombril et de passer au crible ses comportements. En un mot, de cesser de pratiquer une introspection maladive. Car cela nous conduit presque inévitablement à nous comparer aux autres, avec tout l'orgueil spirituel que cela peut engendrer. Mais aussi se comparer aux autres avec le désespoir ou le sentiment d'échec que cela peut faire naître en nous. Orgueil spirituel et sentiment d'échec semblent être deux attitudes opposées. En réalité, elles se confondent. Ce sont deux attitudes religieuses. La seconde chose à faire, c'est de ne jamais cesser de regarder à Christ et à la croix, et ceci en toutes circonstances. Jamais cesser de regarder à Christ et à la croix en toutes circonstances. En effet, la loi n'a pas été donnée aux hommes pour les sauver, mais pour leur faire prendre conscience de leur péché. Si vous avez des doutes sur ce que je dis, vous prenez Romains 3, 20, et c'est en toutes lettres comme ça. Pour leur faire prendre conscience de leur péché et donc de la nécessité d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Christ. Regardez à Christ et à la croix en toutes circonstances. C'est lui confesser, c'est lui dire qu'il est l'unique auteur de notre salut et de notre justification. Mais c'est aussi accepter de se sentir tout petit et faible. Mais pas seulement ça, tout petit et faible, tout en sachant que nous ne craignons rien. Car notre grand Dieu nous tient dans sa main. Jean 10, 27, 29 dit « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Alors, comme l'apôtre qui prenait conscience de son état de pécheur en posant la question « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» nous pourrons répondre « Comme lui, j'ajoute avec lui ». Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi, tu sais, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre ce matin pour être guéris de nous croire en règle avec toi, guéris de savoir que nous sommes sauvés par grâce, mais que inconsciemment, Seigneur, il y a nos œuvres qui sont là et peut-être nous pensons qu'elle joue un rôle dans notre salut. Que par la puissance de ton esprit, Seigneur, par l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, tu puisses maintenant intervenir dans les cœurs qui en ont besoin pour guérir cela. Merci Seigneur de ce que tu veux faire. Amen.